Mais tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient addictif. Cette semaine, une révolution douce, l'économie sociale et solidaire. Au départ de cette série, il y a des oxymores, business vertueux, économie humaine, entrepreneuriat social. Alors chaque jour, on va explorer le paradoxe pour faire un état des lieux de ces entreprises qui inventent un îlot de solidarité dans l'océan du capital. Mais un îlot rentable. Pour commencer, les personnages. Des bobos parisiens militants qui montent un supermarché collaboratif, des financeurs utopistes, un joyeux boucher, des restaurateurs alternatifs, des clients et des chefs d'entreprise et même les inventeurs d'une monnaie locale. Ensuite, le décor. On est à Paris, mais aussi à Lyon, on est en ville, dans des entrepôts remplis de provisions, dans des salles de réunion, dans des petits cafés de la Croix-Rousse, dans des échoppes où, solidaire ou pas, l'argent circule. Aujourd'hui, 3e épisode, faut-il avoir peur du profit, le nerf de la guerre. Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Guillaume Baldi. On est allé poser nos micros pour vérifier que même pour faire du commerce solidaire, on a bien besoin d'argent.
Faut-il avoir peur du profit, le nerf de la guerre ? Patrick Boudet, Guillaume Baldi. L'économie sociale et solidaire a modifié son rapport à l'argent. Il n'est plus son ennemi. Il lui permet d'être indépendante et de diffuser ses idées et ses méthodes. Néanmoins, la question du profit reste entière et peut s'avérer être une source de conflit au sein même des structures. Comment trancher cette question ? Et qui doit le faire ? Le débat, celui des idées, des responsabilités à partager, des salaires, est au cœur de l'entrepreneuriat social. Qui décide et comment on décide ? Patrick Vivray, philosophe.
La forme actuelle du capitalisme financier est de plus en plus insoutenable. Quand les Panama Papers en ont été une nouvelle démonstration récente, vous avez plus de 30 000 milliards de dollars qui circulent dans les paradis fiscaux. Quand le temps moyen de possession d'une action, c'est quand même une part de propriété d'une entreprise, une action qui a été pendant longtemps de plusieurs années, aujourd'hui il est de moins de 30 secondes. Quand, pour reprendre les propos de Bernard Liétard, un ancien responsable de la Banque centrale de Belgique, sur les 4 000 milliards de dollars qui circulent quotidiennement sur les marchés financiers, moins de 3% correspondent à des biens et des services réels. Tous ces éléments font que on ne peut plus accepter une telle domination d'un capitalisme financier qui est en train de détruire la substance de nos sociétés, y compris la substance démocratique. La forme actuelle de l'actionnariat capitaliste rencontre des seuils d'insoutenabilité de plus en plus spectaculaires. Et donc l'idée d'avoir des acteurs qui sont impliqués dans la durée et dans la vie d'une entreprise est de plus en plus remplacée par le fait que les marchés financiers sont un casino mondial qui n'a plus grand rapport avec des logiques d'épargne et d'investissement. Donc on a de toute façon besoin de sortir de ce type d'actionnariat et de réinventer un actionnariat qui soit effectivement impliqué dans la durée et dans la participation à l'avenir de l'entreprise. Et à ce moment-là, cet actionnariat-là, il ressemble effectivement davantage à ce que l'économie sociale et solidaire appelle le sociétariat, et avec un pas supplémentaire à franchir, qui est à ce moment-là, ça n'est plus un dollar une voix ou un euro une voix, c'est un être humain, une voix, qui devient décisif dans cette perspective.
Les gens qui louent les salles demandent si on peut louer les salles pendant l'été.
Alors, ouais.
Donc j'ai besoin d'y voir un peu clair sur ces dates-là.
D'accord. De toute manière, c'est un peu la question. Là, c'est pareil, il va falloir se poser les vacances, qui part pas, quel jour, quelle date, août, juillet. Martin, il a posé ses vacances, moi j'ai posé mes vacances, mais j'ai pas vu beaucoup d'autres gens poser leurs vacances cet été. Il faut se dépêcher un peu, là, juste pour qu'on s'organise.
Moi, je voulais savoir justement les dates de fermeture aussi.
Alors, comme d'habitude, on a cette fameuse semaine d'août, qui est la semaine du 15 août. Est-ce que tu peux regarder sur le calendrier les dates? Parce qu'on a noté sur l'agenda. Août.
Le 15 août, c'est un lundi.
Voilà. Alors, cette semaine-là, on est fermé. Donc, du 15 au 21, là. Et la semaine d'après aussi.
Mais moi, je ne sais pas.
Alors, la règle, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est de prendre des vacances comme les autres. En fait, la règle qui dit, normalement, dans une entreprise normale, que tu n'as pas le droit de te reposer pendant un an, que je trouve complètement débile, qu'on a tous trouvé débile.
Alors, le chômage, en
général. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais pas... Du coup, tu peux prendre tes vacances et t'accumuleras des jours normalement, mais tu peux prendre des vacances en avance, bien sûr.
Delphine Terlizzi, responsable de la ressourcerie La Petite Roquette.
Il faut vite se décider, hein, parce qu'il faut qu'on s'organise. Le principe de l'AG, c'est que les salariés sont très présents sur la décision au quotidien de ce qui se passe à La Petite Roquette. On a évidemment un bureau, hein, un président et un trésorier, qui sont des bons présidents et des bons trésoriers, mais qui ne prennent pas décision, voilà. Sauf les décisions peut-être un peu plus graves, etc. L'idée, c'est que les salariés décident eux-mêmes et on réfère après au bureau en disant est-ce que c'est possible ou pas possible, est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'on va dans la bonne direction, et on en rediscute tous ensemble. Mais c'est vraiment le salarié au cœur du projet. On l'a vu tout à l'heure, hein, les stagiaires sont aussi invités, les services civiques volontaires sont aussi invités, alors que c'est des gens qui sont là en transition très peu de temps. Souvent, on ne les considère pas comme des salariés. Nous, ici, on les considère comme des salariés parce qu'ils donnent un sacré coup de main. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Et tout le monde s'exprime. Donc on a un ordre du jour général. Hein, Donc moi, j'essaye de récolter toute la semaine, c'est un peu mon rôle, l'ordre du jour et les choses que j'entends à droite à gauche. Et après, chacun a le droit d'ajouter à l'ordre du jour. Et après, on commence la séance qui dure en général 2 heures, 2 heures et demie. Avec des coups de gueule, hein, qui peuvent arriver. Mais c'est aussi des moments où, voilà, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde dit ce qu'il a sur le cœur, mais c'est aussi des moments où on est content, on se dit, bah, bravo, super, ça a vachement bien marché, ça fait 3 mois qu'on essaie de trouver une solution, là, on l'a vraiment trouvé. Enfin, voilà, c'est aussi un moment où on se félicite, où on est content, où... Voilà le principe de ces réunions qui sont indispensables. On n'a jamais lâché l'affaire, même si parfois on n'a pas envie d'aller en réunion et qu'on sait qu'on a une tonne d'objets à trier en bas. Mais on se force à les faire et on voit que ça fonctionne au quotidien. Les choses sont dites. Ça c'est important, les décisions sont prises, ça c'est important, et on les prend ensemble, c'est-à-dire que quand on se plante, on se dit bah ouais, on s'est planté tous ensemble. C'est pas quelqu'un qu'on vise particulièrement, on s'est planté tous ensemble.
C'est si l'économie sociale, si les initiatives solidaires se posent cette question de l'organisation quotidienne du travail, et puisqu'on est pour beaucoup dans les services, de la façon dont les services sont conçus avec les usagers, que là, l'économie sociale et solidaire est en mesure de promouvoir un modèle spécifique.
Jean-Louis Laville, professeur au CNAM.
Si elle se repose sur ses lauriers en disant « puisque j'ai une propriété collective, j'ai un fonctionnement démocratique et ça va de soi », on peut avoir beaucoup de déceptions parce qu'il y a de nombreuses entreprises de l'économie sociale dans lesquelles il n'y a pas véritablement de différence par rapport à d'autres entreprises du même secteur d'activité. Donc je crois que les statuts de l'économie sociale sont une condition nécessaire pour effectivement ne pas être dans ce que peuvent vivre d'autres salariés dans des grandes entreprises, c'est-à-dire des délocalisations soudaines, des prises de pouvoir par le capital. Mais il convient également qu'il y ait une élaboration particulière de modes de travail. Et le statut ne suffit pas en soi. Il faut véritablement que les gens puissent être associés dans ce qui fait leur quotidien, aussi bien la production, le travail, que les modes d'échange quand il s'agit de services du côté des usagers. Donc je pense que l'économie sociale et solidaire procure des conditions qui peuvent être des conditions favorables.
Le statut juridique d'Enercop, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif.
Emmanuel Soulias.
Donc c'est une forme de coopérative qui permet d'impliquer dans la gouvernance du projet différentes parties prenantes, et en l'occurrence toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans toutes les phases du projet. Donc aujourd'hui, les coopérateurs d'Enercop, on les répartit en plusieurs collèges. Il y a le collège des producteurs, donc ceux qui produisent l'électricité qu'achète Enercop. Le collège des consommateurs, ceux qui achètent l'électricité fournie par Enercop, le collège des salariés, donc qui contribuent à la vie de l'entreprise, le collège des collectivités territoriales, puisque on est présent dans, comme je l'ai dit, dans 10 coopératives réparties sur toute la France, et que les collectivités territoriales sont très impliquées à la fois dans la production et dans la consommation d'électricité renouvelable. Et puis un collège plus large qu'on appelle partenaire et qui nous permet de rassembler soit des acteurs qui ont participé à la création d'Enercop, je pense notamment à la NEF ou à Biocop, soit d'autres acteurs qui nous ont rejoints au cours du projet et qui souhaitent soutenir l'émergence de la coopérative. Et donc l'ensemble de ces coopérateurs, de ces sociétaires en l'occurrence, votent la stratégie, élisent leurs représentants au conseil d'administration, dans les assemblées générales, et s'assurent que le projet Enercop, qui est traduit dans sa charte notamment, qui est voté par les sociétaires, est bien conforme au projet premier qui les a réunis autour d'Enercop.
Et toutes les voix ont le même poids.
Voilà, donc là on est classiquement dans le schéma un homme, une voix. Donc aujourd'hui, la part de capital chez Enercop, c'est 100 euros. Donc qu'on détienne une part ou qu'on en détienne 100, on a exactement le même poids en fait dans l'expression de ses choix et dans l'équilibre de la gouvernance de la coopérative.
On a parlé de la gouvernance, qui est effectivement assez transparente. Est-ce que vous appliquez le même genre de valeurs, par exemple, à la politique salariale de l'entreprise ?
Alors, on essaye. Pour revenir un peu sur les dimensions d'Enercop, aujourd'hui, c'est 70 salariés à Paris et 120 dans l'ensemble du réseau. Et ce qu'on met en place depuis 2 ans maintenant, c'est tout ce qui est issu de la sociocratie, de l'holacratie, de la gouvernance partagée, de la prise de décision par consentement. Et donc, on essaye de le faire vivre dans l'entreprise. Alors, pas à tous les niveaux et pas de manière totale et exhaustive, parce que ça n'a pas de sens. Mais du coup, on s'approprie ces méthodes et on essaye de les faire vivre. Donc, pour rebondir sur la question que vous avez posée, par exemple, l'évolution de la grille salariale d'Enercop, c'est un sujet qui aurait pu se régler entre la responsable RH et moi-même le directeur général dans un bureau, et ça aurait pu se faire en 10 minutes. On a choisi justement de s'inspirer de ces méthodes de gouvernance partagée pour pouvoir travailler le sujet. Donc on a créé ce qu'on appelle un cercle rémunération, dans lequel la direction générale, les RH sont présents, mais aussi les délégués du personnel, et aussi les salariés via un mode de désignation qu'on appelle l'élection sans candidat. Donc 2 salariés ont représenté l'ensemble des salariés dans ce cercle. Et en fait, les règles du jeu de ce cercle, c'est de dire on ne prend les décisions qu'en gestion par consentement. C'est-à-dire toutes les décisions qu'on prend dans ce cercle ne font pas l'objet d'objections de quiconque. Et on est tous en équivalence dans ce cercle. Donc Un sujet qui est l'évolution de la grille salariale qui aurait pu prendre quelques jours, il a pris pas loin d'un an en réalité, parce que c'est un sujet en plus très compliqué qui sollicite tout un tas de choses diverses et variées. Mais on a abouti effectivement à une refonte de notre grille salariale qui a donc été co-construite par l'ensemble des salariés. Voilà. Et pour finir sur la rémunération, on a essayé de mettre en place une grille de rémunération la plus simple possible et la plus équitable possible, puisque là encore, la question du partage de la valeur monétaire et de la valeur financière est importante. Et on a notamment acté que le ratio entre le plus bas et le plus haut salaire était de 1 à 3 chez Enercop. Ce qui est significatif quand on regarde le ratio qui a été retenu par les critères d'octroi du label ESUS, je crois que c'est de 1 à 11.
Par carte bleue. 29-20, s'il vous plaît. Donc maintenant, je prends la parole. C'était la question. Alors, donc vous payez par
Par chèque. Par carte bleue. J'ai plus de 20 euros.
Carte bleue, d'accord. Ah, oui. Attendez, on va laisser la dame.
Non, mais regarde, je vais faire comme ça. Tiens, ça, c'est le tien.
C'est bon.
Merci,
c'est bon. Au revoir, bonne journée.
La gouvernance participative permet de résoudre un bon nombre de tensions au sein de l'entreprise et clarifie les rapports à l'argent. Néanmoins, monter un projet dont les profits restent aléatoires et surtout ne seront pas redistribués aux financeurs initiaux relève du défi. Aussi, il est nécessaire que les initiatives sociales ambitieuses soient aidées et accompagnées dans leur financement pour se construire et réussir. Tom Booth, cofondateur du supermarché collaboratif La Louve.
Aux États-Unis, il y a aussi des petits projets de coopératives comme le nôtre qui démarrent, mais ils galèrent. Parce qu'aux États-Unis, pour ce genre de projet, comme pour toute initiative comme ça, la dernière chose qu'on ferait, c'est demander à la ville ou à la région pour une aide. Parce que normalement, c'est l'ennemi. Et donc, le capital, on passe le chapeau, et ça, c'est le capital. Et donc, ça veut dire que ces petites coopératives à New York, ils démarrent super petits, avec des frigos pas de bonne qualité, etc. Et dans le modèle, c'est important d'essayer d'ouvrir grand. C'est-à-dire d'ouvrir pas comme une boutique, mais ouvrir comme un supermarché. Parce que sinon, on a ce problème. Si les gens sont obligés de passer 3 heures par mois, grosso modo, dans le supermarché, mais par contre, ils achètent juste 20% ou 30% de leurs courses au supermarché, après un certain moment, le militantisme fane. Et on dit, bon, c'est une galère. Je suis malade, je suis obligé de venir, mais quand même, j'achète que quelques petits trucs. Et donc, il vit ce problème avec les coopératives à New York. Donc, si on peut avoir les moyens pour ouvrir, comme on va faire, un supermarché avec une gamme complète, entre guillemets, ce problème est réglé. Et donc, on a la chance, en France et en Europe, d'avoir une culture où la première chose, nous, on n'avait pas pensé à faire ça, Brian et moi. On avait pensé que ça serait notre capitale, etc. Mais tout de suite, les Français disent, non, il faut parler avec la ville, avec la région. Et c'est vrai, avec plein d'institutions, il y avait de l'aide. On a un budget à 1,5 million. Ça c'est, et dans, grosso modo, 300 000, c'est notre argent, l'argent des coopérateurs. Donc ça, c'est pas mal déjà. Mais pour l'autre, c'est des financeurs associatifs superbes comme France Active, par exemple. Ça, c'est probablement le financeur principal. Donc, c'est des prêts intéressants pour nous, etc. Et en fait, avec France Active, ils sont très sérieux avec l'étude des projets. Et s'ils te prennent, les autres financeurs disent « bon, si France Active dit que c'est bon, on est prêt ». Et donc, à cause de ça, on a aussi quelque chose des caisses de dépôt et aussi deux banques privées, le Crédit Coopératif et la Caisse d'épargne. Et donc voilà, on a eu quelques subventions, mais pas des montants très importants relatifs à notre budget.
Donc je m'appelle Christian Sauter, je préside le réseau France Active depuis 2001. Alors France Active est née en 1988, à l'époque du gouvernement de Michel Rocard. Avec Claude Alfandéry, le réseau France Active est né avec l'idée que il fallait faire un travail sur mesure, que chaque personne est un cas particulier, qu'il ne suffit pas d'avoir une idée pour créer une entreprise, il faut passer de l'idée au projet, il faut passer du projet à la création, il faut passer de la création à la réussite. Donc c'est un cheminement qui est assez long et qui suppose, un petit peu comme en montagne, d'être encordé avec quelqu'un qui a plus d'expérience et qui donne confiance. Alors, ça c'était 1988, depuis on a beaucoup grandi, j'ai pris le relais de Claude Alfandéry donc en 2001, et l'an dernier, 2015, nous avons encouragé, accompagné et financé 7000 entreprises, hein, 5800 entreprises individuelles et 1200 entreprises solidaires. Ces entreprises individuelles, trois chiffres, mais je ne vais pas vous noyer de chiffres. Le premier chiffre, c'est que ce sont à 90% des chômeurs, avec une très forte minorité de chômeurs de longue durée. Donc nous respectons notre vocation initiale, mais nous allons maintenant au-delà. Deuxième chiffre, il y a 46% de femmes, alors que normalement, il y a une créatrice pour deux créateurs d'entreprises. Et le troisième chiffre, c'est que le taux de réussite à 3 ans, c'est-à-dire non seulement avoir survécu, se payer un revenu correct, mais très souvent commencer à embaucher, le taux de réussite à 3 ans est de 83%. Donc vous voyez, le cocktail accompagnement, encouragement, financement, c'est un cocktail de réussite, hein, puisque on n'est pas certain, les créateurs d'entreprises ou les entreprises solidaires ne sont pas certaines de réussir, mais bon, la probabilité est quand même très forte.
Quels sont les critères d'éligibilité pour les projets ?
Il n'y a pas vraiment de critères d'éligibilité. Nous nous tournons vers ceux qui ont du mal à trouver des financements bancaires. Donc, lorsque la banque leur a claqué la porte au nez, nous les aidons à rentrer par la fenêtre de la banque. Nous recevons tous les candidats et nous ne les finançons pas tous, hein. Nous les aidons à mûrir leurs projets. Et grosso modo, sur tous ceux que nous recevons, il y en a un sur quatre qui va jusqu'au bout de son projet, c'est-à-dire jusqu'à la création accompagnée et financée. Nous n'apportons pas forcément directement de l'argent. Nous nous portons garant auprès. Nous avons ce qu'on appelle un fonds de garantie qui garantit 20 000 prêts par an. Nous disons aux banquiers, ceci c'est un projet qui a le label France Active. Il va réussir à 83%. S'il réussit, vous avez un nouveau client gratuitement. Toujours sympa pour une banque. Et si jamais le projet ne débouche pas, eh bien, nous vous remboursons la moitié ou 60 ou 70% de ce qui vous reste dû. Vous voyez, donc, notre but, ce n'est pas d'investir directement dans la création d'entreprise, c'est de donner accès. Nous ne sommes pas une banque des pauvres. Nous voulons que ces créateurs rentrent dans le circuit normal. Et les taux d'intérêt qui leur sont faits sont des taux normaux. Alors, je ne dis pas que France Active, CAC 40, même taux, même combat, mais nous ne voulons pas que les créateurs d'entreprises venant d'une situation difficile soient en difficulté. Ça, c'est le côté entreprise individuelle. Du côté des entreprises collectives, des entreprises solidaires, là, nous avons une grosse activité de collecte d'épargne solidaire. Nous avons collecté en 2015 21 millions d'euros d'épargne solidaire qui sont aussitôt réinvestis dans des entreprises solidaires. Ce à quoi nous tenons, c'est cette idée non seulement de solidarité, mais aussi l'idée de proximité et d'efficacité. Proximité, nous voulons pouvoir dire à un épargnant solidaire, votre argent a été dans telle entreprise qui est solidaire et qui est peut-être pas du côté de la rue, mais que vous pouvez aller voir pour être sûr que vous ne remplissez pas un tonneau percé.
Alors je suis Ismaël Lemuel, président et cofondateur d'Helloasso. Helloasso, c'est la première plateforme de financement participatif pour les associations. C'est un site qui permet à n'importe quelle association en France de se financer sur Internet, d'aller chercher des dons, d'aller chercher des adhésions, d'aller organiser ses événements également. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 16 000 associations qui utilisent notre outil. On a collecté, enfin, elles ont collecté plutôt un peu plus de 22 millions d'euros. Et c'est vraiment un outil au service des associations pour leur permettre de se financer sur Internet. Avec une spécificité importante, c'est qu'Helloasso est la seule plateforme de financement gratuite. On ne prend pas de commission, à l'inverse de pas mal d'acteurs. Et on repose sur un modèle participatif au pourboire, c'est-à-dire qu'au moment de la transaction, on garantit à l'internaute que 100% du montant qu'il est en train de payer, de contribuer, retourne à l'association. Et on lui propose de laisser, s'il le souhaite, un pourboire optionnel et volontaire à l'association. Alors, le projet Helloasso a maintenant un peu plus de 7 ans, donc ça remonte un petit peu. Et il est né d'une idée toute simple, finalement, c'est que moi, j'étais à ce moment-là en Argentine, en train d'étudier le mouvement des coopératives autogérées. Et je me suis aperçu, en fait, que le mouvement des coopératives, dans cet exemple-là, mais même l'économie sociale et solidaire au sens large, utilisait très très peu les outils du digital pour parvenir à leur fin, alors que c'était un endroit où elles pouvaient vraiment avoir des économies d'échelle, de gains de rapidité, etc. Et donc, j'ai essayé de concevoir un site qui permette à l'économie sociale et solidaire et aux associations d'être plus efficaces, d'utiliser finalement la force du réseau Internet et on a commencé par s'attaquer à un des pans les plus structurels de leur existence qui est celui du financement.
Comment vous êtes financé au départ?
Alors au départ, on s'est financé d'abord sur nos fonds propres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se payait pas tout simplement pour lancer le projet. Et puis ensuite, on a eu des ce qu'on appelle des business angels qui ont cru dans l'idée, qui ont eu envie de la faire émerger. On a été aussi soutenu par l'État à travers différents dispositifs d'aide à l'innovation. Et c'est ça qui nous a permis de démarrer le site qui à l'époque s'appelait pas Helloasso mais Mail for Good. Et puis petit à petit, comme sur tout site internet, d'ailleurs, on a changé d'idée plusieurs fois, on a testé ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et puis on a fini par aboutir à cette plateforme qui aujourd'hui collecte plusieurs millions d'euros par mois. Alors je ne sais pas si on peut dire que le numérique est le nouveau territoire de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est clair, c'est qu'il pourrait l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est relativement peu présente sur Internet. Le seul exemple vraiment emblématique, c'est celui de Wikipédia, qui est quand même le cinquième site mondial et qui est une association. Mais sinon, si on regarde les 10 premiers sites mondiaux, c'est pas de l'économie sociale et solidaire. Et si on regarde même plus généralement, il est assez clair que l'écrasante majorité de ce qui se passe sur Internet tient plus du monde capitaliste que de l'économie sociale et solidaire. En plus, sur Internet, l'économie sociale et solidaire devrait s'étendre encore plus parce que les valeurs du web, toute cette idée de partage, de transparence, de réseau, colle vraiment extrêmement bien à l'économie sociale et solidaire. Pour autant, à mon sens, cette économie sociale et solidaire n'a pas encore vraiment pris le virage du numérique. Elle est pour l'instant un petit peu passée à côté. Il y a une question d'acculturation et de langage qui fait que l'économie sociale et solidaire n'a pas vraiment encore pris ce virage. Alors ce qu'on propose chez Helloasso pour accompagner l'économie sociale et solidaire vers le numérique, c'est de les former, de les accompagner sur cette transition numérique dans ce pan important de leur existence qu'est le financement. On propose à une association bien sûr un outil qui est Helloasso et qui leur permet d'aller collecter de l'argent, mais on propose surtout un accompagnement parce que on sait bien que sur Internet l'outil n'est rien si on ne sait pas s'en servir et donc on accompagne aujourd'hui toutes les associations qui viennent chez Helloasso pour leur permettre de comprendre comment est-ce qu'on lance une campagne de financement sur Internet, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les écueils à éviter également. Et puis on a cherché à aller plus loin et on a également lancé une formation en ligne qui s'appelle la Helloasso Academy et qui a vocation à permettre à n'importe quel acteur, une association, une maison des associations, une MJC, bref, tous les acteurs qui sont des associations ou qui les accompagnent, de se former sur le sujet et de devenir des experts du crowdfunding et d'avoir des relais un petit peu partout qui vont pouvoir expliquer aux associations comment se saisir d'Internet. Il y a un drame sur l'économie sociale et solidaire, à mon sens, dans les 20 dernières années, c'est que tout un aspect de ce qui fonctionne très très bien sur Internet est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Ce sont tous ces sites qui permettent de partager des choses entre particuliers. Le plus connu est sans doute Airbnb qui permet de partager sa maison, de louer sa maison à des particuliers. Il y a aussi Blablacar évidemment qui permet de partager sa voiture et quand on fait un trajet d'aller d'un point à un autre en accueillant d'autres personnes dans sa voiture et ainsi de suite. Ça se décline vraiment à l'infini et il y a des centaines et des centaines de sites collaboratifs qui permettent de partager différents biens. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative et ce qui est un petit peu dramatique, c'est que quelque part cette économie collaborative, eh bien, elle a complètement éclipsé l'économie sociale et solidaire sur Internet. La question est de savoir s'ils vont réussir à reprendre cette place. Donc il y a un vrai défi, à mon sens, pour l'économie sociale et solidaire, de réussir à s'emparer de ces logiques collaboratives et de les faire siennes sur Internet. Et le défi, il est très important et il est très difficile, précisément sur la question des business models. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire sur Helloasso en proposant un modèle alternatif, participatif et réellement collaboratif où on repose nous-mêmes sur les contributions de notre communauté. Et c'est probablement, nous, c'est en tout cas une des voies qu'on voit pour l'économie sociale et solidaire, de proposer des modèles alternatifs où les sites qui vont se poser en concurrent, quelque part, de ces Airbnb ou Blablacar, on les voit arriver. Par exemple, Blablacar, vous avez un site qui s'appelle Covoiturage Libre, qui permet d'avoir ces logiques d'économie sociale et solidaire sur des systèmes de covoiturage. Mais ce qui est compliqué, c'est que on sait que c'est très très long d'émerger sur Internet. On a un peu plus de 7 ans et pendant plusieurs années, vous êtes un petit peu tout seul dans le désert. Et donc, il faut trouver aussi des moyens de financer ces projets d'économie sociale et solidaire sur Internet qui ont besoin, comme tout le monde, de temps pour trouver leur modèle, pour itérer, pour se chercher, jusqu'à devenir des plateformes importantes.
Les
l'économie sociale et solidaire ne peut se limiter à une refonte de son ambition entrepreneuriale. Si elle se veut transformatrice, elle doit aborder également la question de la substance de ses échanges et de la création de valeur qui en découle. À ce titre, la monnaie est un outil adéquat pour mener une réflexion sur la production économique, sur les lieux d'implantation de cette production et de ses rapports avec les autres territoires. Patrick Vivray, philosophe.
À travers l'expérimentation, par exemple, d'une monnaie locale sur un terrain, on va se poser de tas de questions. Les gens vont dire, mais alors cette monnaie, quel est son sens, qui la garantit, comment on la crée? Et on leur dira, mais vous avez tout à fait le droit de vous poser ces questions, et même nous allons co-construire ensemble les réponses, mais vous avez le droit de vous les poser aussi à propos de l'euro, du dollar, de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire, il y a une fonction de réappropriation citoyenne et d'éducation populaire qui se met en place à cette occasion. Et puis, par ailleurs, ça remplit des fonctions très importantes qui est la relocalisation, la réanimation d'une économie locale qui est souvent détruite ou en tout cas partiellement détruite par les logiques de l'économie dominante. Le fait qu'une monnaie locale n'est valable qu'à l'intérieur d'un territoire local donné, et qu'en plus, dans ce territoire, on va valoriser des activités à haute valeur écologique, haute valeur ajoutée écologique et sociale, va recréer une dynamisation d'un tissu local pour une économie transformatrice. Les monnaies locales et citoyennes, elles retrouvent le lien avec la longue histoire de la monnaie bien avant que l'on utilise justement des métaux précieux pour dire la monnaie en tant que telle n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, ce sont les richesses que la monnaie va permettre de faire circuler. Donc la complémentarité, elle n'est par rapport aux monnaies officielles que pour des raisons juridiques, pédagogiques et conjoncturelles, j'insiste sur ce point, mais la vraie complémentarité, c'est par rapport aux richesses réelles des territoires. C'est la raison pour laquelle souvent, quand au moins au sein du mouvement Sol, quand des acteurs veulent lancer une monnaie locale, la première question que nous leur posons, c'est commencer à procéder à un audit des richesses du territoire. Quel est le catalogue des ressources, des offres et des demandes effectives? Et c'est seulement à partir de cette richesse réelle que vous repérez que la monnaie va être un outil facilitateur de cette circulation. Si vous partez de la monnaie uniquement, comme si c'était une baguette magique, vous pouvez être super alternatif, vous êtes en train de reproduire la même erreur que celle du système dominant, qui est de confondre un moyen et une fin.
Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie peut échapper à la spéculation ?
Le propre de toutes ces monnaies, c'est que, justement, elles ne sont échangeables que sur des territoires concrets et par rapport à des biens et des services réels.
Qu'est-ce que gagne le consommateur en utilisant la monnaie locale ?
Alors, il y gagne à la fois comme consommateur, puisque il a l'assurance que la monnaie qu'il va utiliser ne va pas partir à un moment ou à un autre dans le circuit spéculatif. Il a l'assurance que cette monnaie va servir à une dynamique du territoire auquel il appartient et à favoriser des produits, des biens, des services qui ont une valeur ajoutée écologique, sociale. Mais il va aussi y gagner justement de plus être un simple consommateur, de redevenir un citoyen qui est dans un rapport à la monnaie, qui est un rapport de souveraineté, de co-souveraineté. La monnaie est un bien public politique, et donc à ce moment-là, il n'est pas un simple consommateur, il redevient pleinement un citoyen. Pour être au moins transformatrice, voire subversive au bon sens du terme, il faut effectivement que ces monnaies se contentent pas d'être complémentaires et qu'elles soient pleinement citoyennes.
Sinon, on prend les deux coupés, ils vont nous demander l'année.
Pas de soucis, vous allez bien ?
Ça va ?
Quatre,
oui.
Vous,
là, oui.
Vous,
de valeur. Là, non, non.
Sinon, je prends les deux. Vous attendez pour lundi? Sûr, oui, sûrement. Oui, mais je pourrais la partager comme ça dépend ce que vous allez trouver derrière.
Le SCO au Pays Basque, le Sol Violette à Toulouse, le Boussole à Boulogne, le Stuc à Strasbourg, plus d'une trentaine de monnaies complémentaires circulent déjà en France et de nombreux autres sont en préparation.
Oui, vous m'en mettez trois, puis vous mettez celle-ci. Oui.
Cet après-midi, nous sommes chez Pierre Voraz à Lyon.
On est à Lyon, mais à la Croix-Rouge plus précisément. On est rue Payron, pas très loin de l'hôpital.
Ça fait longtemps que vous êtes ici ?
Dans cette boutique depuis 8 ans et installé à la Croix-Rouge depuis 35 ans. J'avais un commerce à une cinquantaine de mètres d'ici, voilà, où j'ai fait mes classes et j'ai fait mon lit ici. Voilà.
Et qu'est-ce que vous vendez ?
Alors, en priorité, on vend la volaille. C'est une affaire de famille, on va dire. Le premier volailler de la famille a exercé dans les années 1820 environ. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussé à souscrire à la Gonette ?
Alors, souscrire à la Gonette, c'est mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, dans la mesure où, par ce biais-là, on espère recréer un lien qui semble disparaître peu à peu, c'est-à-dire la proximité. Pouvoir faire travailler son voisin, comme on le faisait dans le temps avec le plombier, le peintre... voilà.
Qu'est-ce qui vous en a parlé la première fois de la Gonette ?
Eh bien, c'est M. Joanneau qui nous a éclairés. Et voilà, donc ça, moi j'ai été un des premiers avec Brigitte, les Galets Bleus, à adhérer à cette monnaie.
Vous avez été convaincu immédiatement ?
Oui, sur le principe, assez vite, effectivement. De plus en plus, on sent les gens motivés par cette nouvelle monnaie.
Combien vous avez de clients qui utilisent la Gonette ?
On va dire aujourd'hui une bonne cinquantaine, entre 50 et... Voilà, mais ça se développe tout doucement. Les gens en parlent, puisque, voilà, en voyant payer comme ça, ils s'inquiètent et ils s'intéressent en disant, tiens, qu'est-ce que la Gonette ? Ça fait 6 mois que la Gonette est en route. Et au début, on avait des gens qui traversaient la ville. Ils cherchaient quelqu'un qui prenne la Gonette. Aujourd'hui, ils nous demandent où est-ce qu'on peut trouver la Gonette. La différence est là. Ils aimeraient bien pouvoir payer en Gonette, mais ils ne savent pas souvent le processus à suivre. Alors on les envoie rue Humbert Colomès. Et voilà, on les éclaire et on les nourrit en Gonette si voilà. C'est-à-dire on a un intérêt, c'est que le producteur vive aussi. Donc si à force de l'étrangler, voilà, on les a tous fait mourir bientôt et après ils sont rachetés pour une poignée de cerises, voilà, par des grosses structures comme ça qui mènent le produit du départ jusqu'à la fin sans intermédiaire puisqu'ils les ont absorbés.
Et voilà.
Très bien. Combien ça coûte une Gonette ?
1 euro. Une Gonette égale 1 euro. Donc il y a 5 billets différents. Il y a des billets de 1 euro, une Gonette, des billets de 2 Gonettes, 5 Gonettes, 10 Gonettes et 20 Gonettes.
Vous en aviez entendu parler, monsieur ?
Non. Non, non, du coup, non.
Et j'ai pu en parler.
Voilà, juste maintenant. Donc on va peut-être se mettre à la Gonette, alors.
Ben voilà. Hein ? Donc vous avez tous les éléments là sur le petit...
D'accord,
très bien. Vous allez à l'association qui est rue Humbert Colomès.
D'accord.
Ensuite, après, il y a des magasins qui font le change, c'est-à-dire qu'il y a le Grain dans le Grenier, je crois, c'est ça, qui a un bureau de change aussi. Donc, quand vous n'avez plus de Gonette, vous pouvez aller au Grain dans le Grenier une fois que vous avez adhéré.
D'accord.
Et puis, ils vous font la monnaie, enfin, ils vous changent contre des euros. Voilà.
D'accord.
Et petit à petit, on a plusieurs commerces à la prendre, mais ça, on manque quand même de commerçants, moi, je trouve.
Vous venez souvent ici, monsieur ?
Oh oui, quand même, un petit peu.
Ouais.
Et c'est la première fois que vous entendez parler de la Gonette ?
La Gonette, oui, c'est l'occasion.
Que, voilà,
oui.
C'était l'occasion, vous étiez là,
autrement,
en fait.
Oui, c'est la première fois.
Voilà.
Est-ce qu'on peut regarder votre caisse pour savoir combien vous avez de Gonette ?
Alors, mes Gonettes, je les mélange pas avec les...
Ah, vous avez pas de
Voilà, 700 gonettes.
Mais tu les as mis derrière ? Ah ouais, parce que là, c'est un fond de caisse.
Ça, c'est un fond de caisse,
c'est
pour moi, j'en ai 700
derrière. D'ailleurs, si on est visité, pas sûr qu'on nous les vole. La gonnette est involable.
Ça renouvelle la clientèle ?
Ça la fidélise, oui, et ça peut la renouveler aussi. Ça peut la renouveler. Et je voulais dire que la gonnette, ça vous oblige à une certaine tenue aussi. C'est ce que Jean-Vincent disait. Dans la mesure où vous adhérez à la gonnette, ça vous oblige à une certaine conduite, à d'évoluer vers les produits sains, aussi bien des produits de fonctionnement ou des produits de comestibles, évidemment. Ça, voilà. Donc ça peut devenir aussi un label de qualité. Et voilà, c'est aussi un peu le but recherché par les faiseurs de gonnettes.
Alors, Sophie Domange, co-gérante et fondatrice du restaurant Soline.
Et Mathieu Domange, l'autre co-gérant de Soline.
Vous faites partie des co-fondateurs de la gonnette. Vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons vous êtes engagé dans une monnaie complémentaire ?
Alors, on a été sensibilisés aux monnaies complémentaires par une amie et cliente il y a très longtemps, mais on a mis longtemps à comprendre l'intérêt de la chose. Et suite à une conférence des Toulousains en 2011, qui ont expliqué avec beaucoup de pédagogie l'intérêt des monnaies locales et comment les implanter sur un territoire, on s'est investi dans le projet.
Oui, tout à fait. Ça nous a semblé, à ce jour-là, évident qu'il fallait s'investir dans ce projet citoyen et que ça pouvait contribuer à une alternative intéressante dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà.
Moi, ce qui m'a parlé en premier lieu, c'était de trouver une alternative à la spéculation à outrance qui a lieu aujourd'hui et de se réapproprier les flux d'argent sur un territoire. Voilà, de se réapproprier la monnaie et lui donner du sens.
Oui, pour moi aussi, c'est de ramener, de passer du virtuel au réel, parce que je trouve que la société est très virtuelle et on oublie le terrain, la proximité, c'est donner du sens, comme disait Mathieu, des valeurs aussi, qu'est-ce qu'on veut faire de notre monnaie, pourquoi, à quoi elle sert, quels sont les échanges qu'on souhaite entre nous dans une commune, enfin dans une micro-société, mais aussi pour la macro-société, donc c'est réfléchir aussi à toutes ces problématiques et aussi pouvoir fonctionner ensemble. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était un projet citoyen, donc pouvoir décider ensemble de quelque chose avec des modèles démocratiques, de décisions participatives, de remettre un pied dans notre économie, de se poser des questions plutôt que de tout laisser faire. Voilà. Et elle a l'intérêt de faire circuler la monnaie locale, donc enrichir le territoire. Et selon des critères aussi de valeurs qui nous intéressent, nous, c'était effectivement l'environnement et les valeurs humaines. Donc à Lyon, on a plutôt orienté nos choix vers ces critères-là et qui, pour nous, sont fondamentaux dans notre vie et notre quotidien.
Quel est le pourcentage de clients qui payent en gonnette ?
Il est encore assez faible. Moi, je pourrais plus parler en nombre de gonnettes. On va avoir par exemple, une moyenne, on va dire en moyenne 50 gonnettes par jour, mais qui progresse tout le temps. Et je pense que plus les prestataires sont nombreux, plus les gens, du coup, se disent ils peuvent utiliser la gonnette et en prennent. Il y a des gens qui sont sensibilisés, ils font pas encore le pas. Mais plus on sera nombreux, plus ils feront le pas. Et il faut leur faciliter aussi la tâche. Donc le fait d'être comptoir de change, c'est aussi un point positif pour eux et les clients qui viennent ici. Donc il faut continuer vraiment l'information, la communication autour de ça. Et donc nous, on voit que le chiffre progresse de semaine en semaine.
C'est le restaurant Soline. Je voulais vous préparer une commande. C'est possible d'avoir 3 cartons d'affoleuse blonde et 3 cartons d'ambrée, s'il vous plaît. Vous pouvez me confirmer la commande dans ma planche et Soline au 04 78 60 40 43. Merci, au revoir.
La gonnette, ce sera là-bas, dans le petit salon.
Dans le petit salon, elle vous a mis, Sophie. Ça vous va, là ?
Ouais, c'est très bien.
Vous pouvez coller les tables. Ça.
Alors, mon prénom est Jean-Vincent, mon nom est Géano. Je suis le responsable administratif et financier de l'association La Gonnette, monnaie locale citoyenne. C'est une monnaie locale citoyenne créée sur la zone d'activité de Lyon et qui a été lancé en novembre 2015. Plus concrètement, d'abord, il faut une belle mobilisation citoyenne. Une équipe de gens déterminés qui mettent en commun l'objectif de développer une monnaie ayant pour but de développer le commerce local sur des bases éthiques qui respectent l'environnement, le social. Et à partir de là, j'ai envie de dire, tout est possible, puisque on peut s'appuyer, y compris sur les coordinations qui existent au sein des monnaies locales, ou sur le mouvement Sol, par exemple, avec lequel on est très proche. Alors, 6 mois après son lancement, on a aujourd'hui 1950 exactement utilisateurs de la gonnette qui font circuler à peu près l'équivalent de 72 000 euros sur leur lieu de vie, avec 130 commerçants. Il y en a 5 de plus par semaine, en gros, 4 ou 5 de plus par semaine, donc c'est en plein développement.
La clé du succès d'une monnaie locale, c'est de convaincre les commerçants avant tout.
J'ai envie de dire les deux. Il faut convaincre les commerçants de pouvoir l'utiliser, mais aussi les aider à la faire circuler, parce que l'idée de la monnaie locale, c'est de la faire circuler pour créer de la richesse, et donc de convaincre aussi et de travailler avec leurs fournisseurs. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est fixé la zone d'activité de Lyon, pour toucher les producteurs qui sont pas forcément dans Lyon intramuros, comme vous pouvez le supposer, quand même. Tous les gonnettes en circulation sont garanties par un fonds équivalent placé dans une banque éthique, et on travaille essentiellement avec le crédit coopératif, la nef étant pas encore tout à fait mûre pour avoir des agences bancaires, mais on a un carnet nef par ailleurs au crédit coopératif, et a priori ça fait partie des banques avec lesquelles on envisage qu'on continuera de travailler. Mais à tout moment, bien sûr, les utilisateurs sont garantis de pouvoir retrouver leur monnaie. Mais enfin, nous ne travaillons pas dans cette perspective, nous travaillons au contraire dans la perspective du développement de la monnaie. Et c'est la raison pour laquelle on envisage de pouvoir avoir un équivalent numérique à nos billets coupons que vous avez pu voir, essentiellement pour que les professionnels puissent changer entre eux de façon plus facile, plus facilement. Lorsqu'ils ont besoin de passer une commande à tel ou tel fournisseur, c'est souvent en centaines d'euros ou centaines de gonnettes que ça se pose, si ce n'est pas en milliers de gonnettes, et on ne peut pas leur contraindre, demander de compter leurs billets, c'est quand même un peu fastidieux, et ça ne facilite pas surtout la transmission, la circulation de la monnaie. Donc on va travailler un petit peu pour le passage à l'électronique, à l'informatique, pour essentiellement au niveau des professionnels.
C'est une monnaie réelle, la monnaie complémentaire ?
Ah, c'est une vraie monnaie. Elle est adossée à l'euro, certes, c'est une monnaie complémentaire, mais, elle a une valeur très forte pour les commerçants qui l'utilisent et pour ses utilisateurs, je veux dire, au même titre que... Et ils sont très fiers de pouvoir l'utiliser et de le montrer, et qu'ils l'utilisent, entre autres. C'est aussi un bon moyen de discussion et d'éducation populaire, pour employer un grand mot, autour des utilisateurs, parce que quand je sors mes billets, quelquefois j'éveille un peu la curiosité, et donc ça me permet d'ouvrir la discussion avec mes voisins. Avec cette monnaie-là aussi, on retisse du lien, non seulement avec d'utilisateurs à commerçants, mais entre commerçants et entre commerçants fournisseurs ou entre commerçants utilisant la même monnaie. C'est aussi en quelque sorte une réappropriation plus humaine en quelque sorte de la monnaie et des échanges. Cette monnaie, elle plaît pas forcément à tous les banquiers. C'est vrai que, même si c'est lilliputien, à 72 000 euros à l'échelle du PIB lyonnais, c'est lilliputien. Néanmoins, c'est une petite goutte d'eau qui suscite les débats. Et ça, c'est important.
Comment finance-t-on une monnaie complémentaire ?
On la finance avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, on a beaucoup de volontaires qui travaillent avec nous, de bénévoles. Mais on a aussi utilisé des aides d'État de la région Rhône-Alpes. On a eu une aide à l'émergence du réseau de France Active, Rhône Développement Initiative, comme on l'appelle ici. Et l'idée, c'est d'essayer de développer un modèle économique qui fasse qu'on arrive à tourner, en gros, avec un tiers d'adhésions. Parmi les adhésions, j'entends les adhésions des utilisateurs, mais aussi des professionnels. Un tiers de subventions des collectivités locales. Et puis un tiers des aides d'État sur les emplois aidés que nous avons utilisés. Mais ceci dit, ça peut être que c'est vraiment de financement à courte vue, parce que notre idée, c'est quand même pas de fonctionner strictement et ad vitam avec des emplois aidés. On souhaite que les emplois soient des emplois durables, de droit commun, et on se prépare à ça pour l'année 2017. Ça va dire pas mal d'efforts. Et puis, on a eu quand même un financement participatif. On a lancé au moment de la création des billets, parce que la création des billets, ça demandait un petit peu de monnaie, entre guillemets, essentiellement collecté par des souscriptions locales. Ce qui nous a aussi montré l'intérêt de la population lyonnaise sur ce projet. On veut parler de la métropole lyonnaise, c'est-à-dire de l'ensemble de la zone d'activité de Lyon.
Claude Alfandéry, ancien banquier et fondateur de France Active.
J'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin qui dit « Cette économie solidaire, elle refoule progressivement et systématiquement l'économie qui est animée par le seul profit. » Donc c'est cette idée de refoulement. Ce refoulement, en fait, ça se concrétise par l'élargissement des cibles de l'économie sociale proprement dite, mais aussi parce que finalement, elle instille dans l'économie d'ensemble d'autres soucis, d'autres formes de responsabilité. Elle pollinise l'ensemble de l'économie, et c'est de cette façon-là que on passe assez facilement de l'économie sociale et solidaire à l'économie circulaire, à l'économie collaborative, et que finalement, on a un ensemble qui devient quelque chose de beaucoup plus large que l'économie sociale et solidaire d'origine.
Est-ce qu'on peut penser que cette économie sociale et solidaire puisse transformer l'économie capitaliste ?
Le capitalisme financier résiste à des moyens absolument formidables, à une sorte de résilience tout à fait considérable, qui risque quelquefois de corrompre l'économie sociale et solidaire elle-même. Il y a tout de même ce danger-là. Je pense que il faut savoir prendre des risques d'entrepreneurs, ce qui forcément nous met cette économie sociale et solidaire en prise avec l'économie d'ensemble. Il faut faire attention de ne pas y perdre son âme. Il faut trouver les moyens de développement, mais il faut ne pas y perdre son âme. Et je pense que dans cette économie collaborative, dans cette économie circulaire, il y a toujours le risque finalement de dérive vers le plus grand profit.
C'était « Faut-il avoir peur du profit ?» Le nerf de la guerre.
C'est dur aujourd'hui peut-être. Demain ça sera vachement mieux.
Attaché de production, Christine Bernard. Prise de son, Thomas Robin, Loïc Duros, Georges Thau, Philippe Etienne et Patrice Klein. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire de Patrick Boudet.
LSD, la série documentaire C'est tout neuf, mais c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous en voulez encore, des bibliographies, des liens, mais aussi nous podcaster pour plus tard ou bien nous réécouter pour toujours, et bien tout ça, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture, bien sûr. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et demain, dernier épisode, la solidarité à la conquête du monde. Mais tout de suite, on retrouve Hervé Gardette.